Ce n'est pas une théologie mystique. En fait, c'est une hypothèse scientifique standard qui découle de la théologie mystique. Mais la plupart des scientifiques, sans nécessairement le savoir, souscrivent à une vision du monde d'un présent éternel. Rupert Thiem vient de mentionner quelque chose à propos de la rétrocausalité et vous avez étudié la rétrocausalité. Je ne sais pas dans quelle mesure c'était une métaphore, mais j'aimerais que vous commentiez cela. En tant qu'être déterminé, comme tous les animaux et les plantes, nous sommes façonnés par des objectifs futurs. Nous sommes orientés vers un objectif. Il y a donc un sens dans lequel toutes nos actions sont liées à des futurs virtuels. Le philosophe Alfred North Whitehead avait une vision très intéressante de la relation entre l'esprit et le corps, ce qui est pertinent ici. Il pensait que nos esprits étaient concernés par des actions possibles. Nos esprits habitent un royaume d'avenir possible et la fonction principale de la conscience est de choisir parmi ces actions possibles. Donc nos esprits habitent ce genre de possibilités futures, ce que nous allons faire ensuite, ce que nous allons dire, où nous allons aller, etc. Quel sera le prochain événement auquel nous assisterons après cela, toutes ces sortes de choses. Comment allons-nous rentrer chez nous ce soir? Nos esprits sont pleins de futurs à plus long terme. Mais la causalité physique qui agit sur nous vient du passé. La causalité telle qu'elle est comprise en physique et en science provient du passé, à travers toutes les choses qui se sont produites. Une sorte d'inertie du passé qui nous influence toujours dans le présent. Le point de vue de White est que la relation entre l'esprit et le corps n'est pas une relation spatiale entre l'intérieur et l'extérieur. Nous y pensons généralement de manière spatiale. La vie intérieure, le monde extérieur, mais une relation dans le temps. Le pôle mental de notre existence est le pôle futur. Le pôle physique est le pôle passé. Et il y a une sorte de causalité qui fonctionne à partir d'objectifs futurs, qui agit sur ce que nous faisons dans le présent, ce qui revient en quelque sorte à reculer dans le temps. Alors que la causalité physique se déplace vers l'avant dans le temps et qu'elle se chevauche dans le présent est la zone où se mélangent ces deux courants du temps. L'un physique, l'autre virtuel, mais tous deux sont tout aussi importants pour façonner ce que nous faisons, dans la mesure où nous sommes autonomes et prenons des décisions. Je pense donc qu'il existe des façons dont vous. Il y a aussi la rétrocausation, où nous sommes connectés à notre avenir, en particulier par des rêves précognitifs ou par des pressentiments à court terme. Il existe de nombreuses preuves que, du moins de temps en temps, la plupart des gens peuvent faire des rêves précognitifs, quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Il existe également des preuves issues de recherches parapsychologiques selon lesquelles les personnes qui subissent une excitation émotionnelle, par exemple en voyant une image d'une scène érotique ou particulièrement violente dans le cadre d'expériences informatisées, commencent à s'exciter environ 5 secondes avant que l'événement ne se produise réellement. Il y a une sorte de reflux de l'influence du futur vers le présent. Et ça s'appelle le préhentiment. Et je pense que dans la nature, les animaux ont ça. Je pense que les avertissements que les animaux donnent des tremblements de terre et des tsunamis, que j'étudie depuis 25 ans, montrent qu'ils peuvent sentir quand quelque chose de mauvais est sur le point de se produire, parfois des jours à l'avance. Donc, il y a ces connexions à travers le temps. Tout le monde connaît la mémoire et les connexions du passé. Elles sont plus rares, mais il y a des connexions du futur, mais elles ne peuvent fonctionner et agir que si elles agissent dans le présent, là où le futur et le passé se chevauchent pour ainsi dire. Je pense que la vie dit quelque chose de vrai sur l'univers, c'est que nous vivons dans un univers théorique quantique. C'est comme si les formes de vie étaient une sorte de lithographe géant de la vérité des choses théoriques quantiques. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, d'une certaine manière, à cette échelle, cette sorte d'échelle quantique de l'état fondamental. Le temps bouge un peu, n'est-ce pas? Il ne fait que faire la moyenne vers l'avant. En fait, c'est un va-et-vient, n'est-ce pas? Et une forme de vie, en quelque sorte, c'est la chimie qui a pitié d'elle-même, comme la chimie qui refuse de se venger, nous vivons dans un univers où ce trou noir dévore inévitablement cette planète et cette chimie dissout automatiquement cette chose. Mais cette chose était autrefois une sorte de version bébé de cette chose, un peu grossièrement, un peu comiquement, en quelque sorte. Elle s'est maintenue grâce à des choses théoriques quantiques qui se sont produites, à de nombreux, nombreux niveaux. Et il y a, bien sûr, de nombreux phénomènes théoriques quantiques dans la vie en tant que tels, n'est-ce pas? Comme, quand un photon entre dans un chloroplaste, il passe en position superposée. Oui, il y a de minuscules aimants à l'échelle quantique dans les yeux des oiseaux, donc ils n'ont pas besoin d'être dans une onde électromagnétique pour sentir la direction, n'est-ce pas? Je pense que c'est parce que la vie dit quelque chose de vrai sur notre monde, à savoir que le futur peut vraiment être véritablement différent du passé, n'est-ce pas? Nous ne vivons pas dans une tragédie, nous vivons dans une sorte de comédie en quelque sorte. Chaplin a dit que la tragédie, c'est le gros plan, la comédie, c'est le plan large. Ouais. On peut théoriquement générer un nombre aléatoire quantique. Ce nombre ne peut être prédit par aucune recette d'algorithme qui est évidemment basée sur le passé. Même si on le faisait fonctionner pendant des milliards d'années de plus que la durée prévue de l'univers. Par conséquent, le futur peut être différent. Oui, je pense que c'est très important que certaines personnes, comme mes enfants, le sachent, le futur peut être différent du passé. Donc, Rupert, vous avez mentionné que lorsque les gens méditent suffisamment longtemps ou de la bonne manière, quoi que cela signifie, ou prennent des psychédéliques, ils peuvent parfois atteindre des états qui sont mystiques ou unionistes et que ce sont des états de devenir. Cependant, en même temps, nous parlons du moment présent. Et lorsque les gens parlent du moment présent, ils parlent comme s'il s'agissait d'un objet fixe, comme un point et non une flèche. Alors, dites-vous que ce qui caractérise le moment présent est plus un processus qu'un état? Oui, je dis que c'est plus un processus qu'une chose. Mais je pense que lorsque nous avons ce sentiment de présence ou de connexion et une expérience mystique, c'est plus une expérience d'être que de devenir. C'est une expérience dans laquelle nous sommes réellement dans le présent. Et la majeure partie de notre vie est en train de devenir. Et la majeure partie de la nature est en train de devenir. Elle change et va ailleurs que là où elle est à l'instant présent. L'univers tout entier est en train de devenir. Nous sommes dans un univers évolutif qui est en expansion depuis le moment du Big Bang selon notre cosmogonie standard. Et donc le devenir est vraiment la nature de la nature. Mais tous les philosophes mystiques traditionnels ou les philosophes religieux diraient que derrière tout ce devenir, il y a un état d'être conscient qui est dans le présent par définition éternellement dans le présent. Maintenant, lorsque Moïse demande au buisson ardent la voix du buisson ardent qui es-tu et que Dieu dit sa première révélation de l'être de Dieu dirigé par Dieu. Je suis qui je suis. Ce genre de présent est conscient d'être dans le présent. Et comme Dieu est généralement conçu comme éternel, il y a alors une sorte de présent éternel sous-jacent à tout ce qui se passe dans le monde du devenir. Et certaines personnes interprètent l'expérience mystique comme une connexion momentanée avec ce présent éternel qui est par définition au-delà du devenir. Parce qu'il est le fondement et la source de tout ce qui est et de tout ce qui devient et le soutient. Si vous n'aimez pas les idées mystiques ou parler de Dieu, alors vous l'avez aussi dans la science matérialiste conventionnelle et dure, car la science est en fait issue d'une sorte de philosophie platonicienne ou de pythagorisme où les formes éternelles qui façonnent ce qui se passe sont au-delà de l'espace et du temps. Dans la philosophie de Platon et dans l'idée de Pythagore selon laquelle il existe un royaume mathématique éternel qui sous-tend tout ce qui se passe et change dans l'espace et le temps, hérité de la science moderne et de nombreux débats sur la façon dont toutes les lois de la nature ont été fixées au moment du Big Bang. Mais l'hypothèse de la plupart des scientifiques est que ces lois sont fixes. Ce ne sont pas des choses que vous rencontrez lorsque vous explorez le monde. Ces lois de la nature sont au-delà de l'espace, du temps. Elles sont présentes à tout moment et en tout lieu. Elles sont immuables, inchangeables. Et ce n'est pas une théologie mystique, une hypothèse scientifique standard. En fait, cela découle d'abord de la théologie mystique. Mais la plupart des scientifiques, sans nécessairement le savoir, adhère à une vision du monde d'un présent éternel à travers ses formes génératrices que sont les équations mathématiques et les idées platoniciennes qui sous-tendent le monde de l'expérience, le monde en constante évolution. Vous voulez?
Oui, il y a tellement de choses à répondre à ce sujet. Je veux dire, j'ai écrit Le réveil de Kafka, Tout ce qui est gris est un chat et la prophétie autoréalisatrice. Je vais donc essayer de traiter de tout cela brièvement. Donc, la première chose à laquelle je pensais était le réveil de Kafka. C'est ce qui se passe, vous vous souvenez peut-être du début de la métamorphose, lorsque Paul Gregor se réveille et se transforme en un insecte monstrueux. On pourrait dire que nous sommes en 1915. C'est en quelque sorte le pire moment de l'histoire du temps, car ce qui arrive à Gregor Samson, c'est qu'il est un insecte, mais il ne se rend compte que les choses ne vont pas bien que parce que son réveil ne l'a pas réveillé. Il a ce réveil près de son lit et c'est un appareil assez nouveau pour l'époque. Il a une bobine et une cloche et il ne l'a pas réveillé parce qu'il a glissé hors de cet ordre symbolique et mécanique de l'horloge, parce qu'il a été tellement aliéné. Nous avons entendu parler de l'aliénation. Il a été tellement écrasé et aliéné par ce battement mécanique des minutes et des heures, qui a réduit son expérience et l'a réduit à un genre d'être qui ne doit être calibré que par le temps qu'il a été poussé à travailler et à passer tout son temps à gagner sa vie pour sa famille ingrate. Et donc il tombe de ce seigneur symbolique dans ce royaume où il est vu comme grotesque et il ne peut plus entendre le réveil. Il se dit, comment diable n'ai-je pas pu ? Il se dit, comment n'ai-je pas entendu ce bruit horrible ? Il est juste à côté de ma tête. Et c'est un moment tellement important si vous pensez à notre relation au temps et à l'aliénation et au modernisme et à beaucoup de ce dont on parle ici parce que vous êtes avant l'acceptation ou la connaissance générale des théories d'Einstein. Évidemment, en 1905, il écrit le premier grand article, mais c'est avant qu'il ne soit vraiment entré dans la conscience publique. Et vous venez de vivre 2 siècles de mécanisation croissante. Si vous prenez le 18e siècle, si vous alliez à pied retrouver votre ami dans un village et que vous étiez en retard, et que vous n'aviez pas d'horloge parce que vous n'en portiez pas une avec vous comme nous le faisons tous maintenant, et que vous cherchiez plutôt un signe du temps, et que vous regardiez l'horloge de l'église, jusqu'au 18e siècle, elle n'avait peut-être même pas de cadran. Elle n'avait certainement pas d'aiguille des minutes. Elle a juste une idée approximative de l'heure, mais elle sonnait peut-être simplement. Et donc vous vivez dans une relation complètement différente à cet ordre symbolique qui vous restreint et vous contient en permanence et vous demande de percevoir votre durée de vie mortelle en ces minuscules incréments fixes qui doivent être monétisés, calibrés. Je pense donc que Gregor Samson est vraiment intéressant parce qu'il est au cœur de cela. Il est juste au milieu avant que le truc quantique ne démarre vraiment et cela devient beaucoup plus amusant à nouveau pour le temps et nous pouvons commencer à parler des notions de l'avenir influençant le présent. Eh bien, je pensais que c'était très intéressant quand Rupert et Timothy parlaient tous les deux de ce sentiment que l'avenir nous influence et que nous créons également l'avenir. Il y a donc ce sentiment de prophétie autoréalisatrice comme le vieux cliché, mais il y a aussi ce sentiment de métaphore dans lequel nous vivons dans ces métaphores que nous construisons. Et si nous construisons une métaphore particulière avec laquelle nous évoluons en quelque sorte, nous y attirons alors tout et potentiellement nous dessinons l'avenir parce que nous voyons les aspects de notre expérience et de la réalité qui sont en corrélation avec cette métaphore. Nous avançons donc en quelque sorte vers l'avenir et nous choisissons parmi les possibilités. Et vous pouvez souvent le voir avec les prédictions de crise politique où vous pourriez potentiellement affirmer que vous pouvez provoquer une crise en la prédisant, mais vous voulez ensuite être prêt. Alors, allez-vous accomplir votre prophétie ou non ? Et en ce qui concerne le chat, j'ai un chat très bête qui essaie de tuer tout le monde. Il est gris et il essaie toujours de vous tuer en se tenant à vos pieds et en vous tuant lorsque vous tombez sur lui. Et donc, cela signifie que pour ne pas mourir des mains ou des pattes d'un chat qui n'avait pas l'intention de vous tuer, vous finissez par voir chaque objet grisâtre de la maison comme un chat. Chaque chose, et il peut être suspendu à la porte. Vous savez, il est en quelque sorte sous une chaise. Vous savez, il est en quelque sorte posé sur le comptoir parce que, il y a un processus par lequel vous essayez d'anticiper le désastre, qui est que votre chat vous tue accidentellement, et vous rendez maintenant toute cette réalité où tout ce qui est gris est un chat, ce qui est assez agréable d'une certaine manière. Mais il y a quelque chose d'étrange et d'intéressant à mon avis dans la façon dont nous créons une sorte de paysage métaphorique pour essayer d'empêcher la chose que nous avons prédite, à savoir la mort par les chats. Je pense donc que c'est à cela que je pensais pendant que mes brillants collègues parlaient.